Cassis FM.
Bonjour Christine Fréclin.
Bonjour.
Directrice générale de l'école des métiers. Je suis également avec Charline Laïc. Bonjour à vous.
Bonjour.
Directrice des ressources humaines d'Abelis, groupe Action Logement, et Bertrand Jouffreau. Bonjour à vous.
Bonjour.
Directeur d'automobile de Bourgogne, DES Automobile. Je vous passe la parole dans quelques minutes. Mais tout d'abord, je me tourne vers vous, Charline Laïc. La rencontre des entrepreneurs de France en Côte d'Or aura lieu le 29 septembre à la Cité de la Gastronomie de Dijon. Alors, il y aura trois thématiques qui seront développées à cette occasion lors de conférences. L'écologie, l'économie servicielle de fonctionnalité et l'évolution du travail. Alors justement, on va évoquer ensemble ce dernier point, l'évolution du travail. Il en a été beaucoup question, évidemment, pendant les confinements avec la crise du Covid-19 et la mise en place du télétravail. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de salariés qui ont repris un rythme plus normal. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'on doit maintenir le télétravail aujourd'hui à différents degrés, donner plus d'autonomie aux salariés? Quel est votre point de vue à vous?
Alors effectivement, comme vous l'avez énoncé, le télétravail aujourd'hui est incontournable, essentiellement depuis la crise Covid, qui nous a tous amenés de manière un peu contrainte à mettre du télétravail de manière précipitée parfois. Comme vous le laissez entendre aussi, maintenant on est dans un mode un peu plus détendu, normal, et dans une situation conjoncturelle un peu plus sereine. Pour autant, le télétravail reste clairement une demande d'un certain nombre de candidats, voire de collaborateurs. Donc je pense qu'il est difficile de l'exclure complètement aujourd'hui de la notion des conditions de travail qu'on veut offrir aux salariés, avec pour autant peut-être des questions qui se posent aujourd'hui, qui se posaient peut-être moins hier, à savoir, on parle beaucoup aussi de la crise énergétique, donc des coûts aussi induits, des coûts qui peuvent être induits pour le salarié qui resterait à son domicile. Et puis je crois surtout, au-delà de ça, la notion d'appartenance à l'entreprise. Donc certes, le télétravail aujourd'hui va aussi dans le sens de la thématique d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, qui est aujourd'hui et déjà depuis quelque temps maintenant au centre des préoccupations des salariés. Pour autant, la notion de télétravail qui implique aussi l'autonomie, je pense, doit être raisonnable dans sa mise en place et ne pas nuire non plus au collectif, à l'esprit d'équipe et au sentiment d'appartenance à l'entreprise, parce que quand on n'est pas physiquement présent, c'est plus difficile.
Donc il y a un bon dosage, je ne sais pas, une journée ou deux jours de télétravail par semaine, ça vous semble raisonnable?
Oui, alors effectivement, alors il y a aussi la notion évidemment de poste éligible, et en fonction des métiers, la notion de proximité et de service client impose une présence physique parfois à 100%, donc certains salariés aussi sont exclus du télétravail, ce qui peut être pris comme une forme d'inéquité de leur point de vue, donc ça peut être des fois aussi socialement un peu délicat. Pour autant, pour les postes éligibles, oui, j'avoue que le bon dosage, de mon point de vue, serait à raison de une voire deux journées hebdomadaires pour garder à nouveau ce sens du travail en équipe et cette collaboration entre collègues et managers.
Christine Fréclin, de votre côté, le télétravail, c'est peut-être quelque chose de compliqué à mettre en place à l'école des métiers?
Alors c'est très compliqué parce que le Covid a entraîné une forme de télétravail extrêmement rapide, non préparée. Nous sommes un lieu de transmission, nous sommes un lieu d'apprentissage avec des applications techniques professionnelles très précises, avec la production et la reproduction de gestes techniques. En télétravail, c'est extrêmement compliqué.
Quasi impossible.
Oui, on a fait en plus, nous, l'expérience du désarroi de nos jeunes apprentis pendant le Covid. Sans contact physique, sans démonstration, je dirais, tactile, ils étaient désorientés.
De toute la dimension sociale dont on a beaucoup parlé, évidemment.
Tout à fait. Ouais. Autant que faire se peut, on a mis en place ce qui était télétravaillable, entre guillemets, c'est-à-dire des cours qui étaient théoriques, mais l'application pratique, elle ne passe pas par le télétravail.
Ouais, et vous, c'est la spécificité, évidemment, de l'école des métiers, c'est toute la partie pratique, évidemment.
Voilà, l'essentiel de notre mission, elle s'exerce là, à travers cette production de gestes techniques, et le télétravail ne le permet pas. Et compte tenu, en plus, je dirais, du public accueilli, nous avons des jeunes apprentis, donc ces jeunes gens qui apparaissent un métier manuel, un CDI, c'est-à-dire un centre de documentation, ce qu'on appelle chez nous le centre de ressources multimédia, par exemple, vidé physiquement de son responsable, n'a aucune raison de continuer d'exister, parce que les jeunes s'y sentent abandonnés. Leur autonomie numérique n'est pas suffisante pour qu'ils continuent de travailler seuls. Donc, ils ont besoin de l'accompagnement. Mais, et ça, en télétravail, c'est impossible.
Pour terminer ce tour de table, Bertrand Jouffreau, le télétravail chez DS Automobile, bon, doit être compliqué à mettre en place également pour vendre une voiture à distance, c'est pas évident.
Alors pour la vendre à distance, si, on peut imaginer des e-vendeurs, mais c'est vrai que notre spécificité...
C'est quelque chose qui existe déjà?
C'est quelque chose qui existe déjà, mais plutôt au niveau d'un constructeur sur un process qui est qui est presque indépendant ou en tout cas à côté. Parce que notre spécificité, c'est le retail, c'est la distribution, c'est le contact avec le client. Donc, on a des vendeurs qui, une journée, peut-être par semaine, voilà, un peu à leur discrétion, font du télétravail pour tout ce qui est relance, pour tout ce qui est contact, organisation de leurs fichiers et autres. Mais sinon, plus ils vont être chez eux et moins la spécificité d'une présence physique, du retail, d'une concession automobile à son intérêt. En ce qui concerne la prévente, par exemple, là, c'est compliqué le télétravail parce que intervenir à distance sur une voiture, on n'a pas encore des robots qui font à distance, qui dévissent des boulons sur les voitures. Voilà. Donc,
ça peut peut-être arriver, mais bon, pour l'instant, c'est...
Voilà. Ouais. Donc, pour le moment, on va rester à une présence physique. Mais c'est aussi l'intérêt d'avoir... historiquement, quand on achetait une voiture, on regarde où se trouve le point de vente le plus proche de chez soi pour avoir le moins de trajets à
Bien
faire.
Sûr.
Parce que c'est... On a confiance, on reconnaît, on connaît son conseiller technique quand on va à l'atelier. Et puis, c'est ça qui crée la relation. Quoi.
Bien sûr. On a parlé du télétravail, parfois des attentes des salariés justement sur ces modes de travail. Une question peut-être un petit peu philosophique. Quel sens est donné aujourd'hui au travail par la jeunesse? On dit parfois que les jeunes aujourd'hui ne veulent plus travailler. Alors là, c'est une question pour vous, ça, Christine Fréclin.
Oui, tout à fait. Alors, on dit que les jeunes ne veulent plus travailler. Ma réponse, ça va tenir dans un seul chiffre, celui de la progression des effectifs de l'école. Plus 11% de contrats de travail signés pour des jeunes de moins de 30 ans dans des entreprises avec des écarts qui vont jusqu'à 41% de jeunes en effectifs supplémentaires dans les métiers de l'alimentation. Boulangerie, boucherie, pâtisserie.
Et ça, c'est vraiment dans votre secteur d'activité.
Complètement. Complètement.
Donc, avec des travaux manuels.
Il y a une stagnation quand même des effectifs de la restauration, c'est clair. On sait que c'est un point noir, on sait que ces filières ont du mal à recruter, c'est clair. Je me méfie des on dit, hein, très franchement. On dit que les jeunes, etc. Je m'en méfie. Depuis plus de 37 ans, moi, je suis face à plus de 1300 jeunes par an. Je peux vous affirmer que l'envie de travailler elle reste prégnante. C'est une manière d'aborder les apprentissages et le travail qui doit évoluer. Et non pas balancer des évidences. Les jeunes continuent d'avoir envie de travailler. Ouais. Je peux vous l'affirmer, c'est nos effectifs qui parlent.
Et éviter les idées reçues, votre regard à vous, Charline Laïc.
Alors, je partage l'avis de Madame Fréclin. Effectivement, je crois que les on-dit, c'est un peu trop de préjugés. C'est plutôt revoir un peu nos échelles de valeurs qui sont différentes par rapport au travail. Je considère que les jeunes restent engagés, investis et ont envie de travailler, mais ils ont envie de s'amuser. Quand je dis s'amuser au travail, c'est au sens y trouver du plaisir. On dit toujours trouver du sens, mais au-delà du sens, c'est trouver du plaisir. Donc être dans un collectif avec qui ils partagent, être dans le collaboratif, plus uniquement dans des positions hiérarchiques, descendantes. Ils veulent pouvoir prendre part au projet de l'entreprise.
On parle de plus en plus d'organisations transverses, d'ailleurs, dans les grosses boîtes. Bon, c'est le cas, notamment.
Je pense que c'est ce sur quoi il faut aller pour les impliquer dans la prise de décision d'une certaine manière. Et puis, indépendamment de ça, à nouveau, en lien aussi là, avec la notion de télétravail ou autre, oui, il y a aussi peut-être une notion de réalisation de soi qui ne passe plus uniquement par la carrière professionnelle et qui englobe un tout, donc aussi la vie personnelle, le loisir. On est aussi dans une société qui véhicule comme valeur les voyages, les loisirs divers et variés. Et c'est vrai que sans pour autant se désengager de l'activité professionnelle, je pense qu'il y a une sorte de mutualisation de tous ces aspects-là qui est faite par les jeunes et qui font que la réussite d'une vie, c'est plus uniquement la réussite professionnelle, mais c'est un tout. Mais à nouveau, ça n'empêche pas, je pense, ça n'est pas forcément contradictoire avec l'investissement professionnel de cette génération-là.
Ouais. Bertrand Jouffreau, on parlait justement de la pénurie de personnel dans le secteur de la restauration, vous dans le secteur de l'automobile. Il y a une pénurie aujourd'hui, comment ça se passe chez vous?
Alors oui et non, oui parce que d'une manière générale on a du mal à recruter, mais dans certains services, la comptabilité, le marketing, mais paradoxalement les jeunes à la prévente ou en tant que vendeur, eh bien on va à la source, c'est-à-dire que comme l'automobile reste attrayante, bon je fais un peu de pub, quand vous regardez une DS, vous avez envie de non pas de l'acheter quand vous êtes jeune, mais vous avez envie de l'essayer, vous avez envie de vous faire plaisir. Donc, c'est un secteur qui est attrayant. D'autant plus que souvent, les jeunes, on va, en ce qui nous concerne, les chercher dans les lycées professionnels, dans le cadre d'une formation où on leur propose de l'alternance. Donc, on allie l'utile et l'agréable, c'est-à-dire que au lieu de qu'ils soient un peu en perdition dans un système scolaire généraliste, eh bien, ils vont venir chez nous apprendre un métier tout en étant payés dans un secteur qui leur plaît. Et après, on n'a pas de souci de fidélisation de ce personnel. Mais il faut qu'on soit très organisé, très attentif pour que le process soit bien, bien rodé et surtout qu'on reste attrayant tout au long de leur formation. Et il n'est pas question, à un moment donné, de, non pas de les lâcher, mais de les laisser tout seuls, abandonner à eux-mêmes, parce que là, effectivement, le désir de voir ailleurs peut être grand.
Ouais, bien sûr. Et la moyenne d'âge chez vous, d'ailleurs, c'est à peu près de vos vendeurs, ce sont des jeunes surtout,
justement. Des jeunes, je vais dire une trentaine d'années.
Une trentaine, ouais.
Ah, oui.
Ouais. Oui. Autre sujet à présent, sujet évidemment toujours d'actualité, la première ministre Elisabeth Borne a demandé il y a quelques jours aux chefs d'entreprise de faire des économies face à la crise climatique et pour plus de sobriété, c'est un terme beaucoup employé en ce moment, plus de sobriété énergétique. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, qu'est-ce que vous avez mis en place vous, chez vous, Bertrand Jouffreau, chez DS Automobile?
Bon alors tout d'abord, bon, je laisserai peut-être mes partenaires ici présents parler plus des structures. Bon, évidemment, tous les travaux de structures d'économie d'énergie, la fameuse rénovation énergétique loi Elan, entre autres. Mais plus précisément dans l'automobile, évidemment, c'est l'électrification de la gamme, avec évidemment des contraintes qui concernent vraiment tous les gens, enfin tout le monde. On a d'abord spécifiquement une réglementation CAFE qui est une réglementation européenne qui nous impose aux constructeurs d'avoir un objectif de CO2 à la production. Donc on est obligé de s'engager évidemment dans une production de véhicules électriques. La deuxième chose, c'est
avec les objectifs qui ont été donnés d'ailleurs au niveau de l'Union européenne qui est plus de ventes de véhicules thermiques à partir de 2035, hein, c'est ça,
exactement.
Ce qui a été fixé
Mais bien avant, nous avons, nous concessionnaires, des objectifs de mix élevé, c'est-à-dire de véhicules électriques dans nos ventes. Sinon, nous sommes limités dans nos ventes et notre production. Vous voyez, on est vraiment presque dans un système.
Même si le tout électrique n'est pas forcément la bonne solution. Enfin, ça, c'est le débat revient. C'est pas forcément le thème de l'émission aujourd'hui, mais voilà, la voiture électrique, on sait que
il faut juste
c'est
savoir.
Compliqué. Il faut trouver des bornes de recharge. La production des batteries, c'est pas toujours très écologique aussi. Est-ce que le marché
On offre vraiment des alternatives, notamment avec les hybrides rechargeables, où on allie à la fois l'électrique, hein, où on va jusqu'à en DS à 80 km d'autonomie, donc ça c'est pas mal. Ça veut dire que vous pouvez rouler en tout électrique en ville. Dijon en 2025 sera considéré comme une ZFE, une zone à faible émission, et pour lequel eh bien vous pourrez plus rentrer avec des vignettes critères défavorables. Donc, il faut vraiment y penser aujourd'hui. En plus, il se trouve que, voilà, on a la crise des semi-conducteurs, on a la hausse des matières premières, on a cette spécificité qui fait que plus on s'engage tôt et plus on est dans la démarche électrique et plus on est tranquille pour demain, quoi. Donc, je veux pas dire qu'il faut aller vite, mais il faut y penser, en tout cas, de manière certaine, quoi.
Entendu. Christine Freklin, de votre côté, qu'est-ce que vous mettez en place justement face à cette crise énergétique dont on parle beaucoup en ce moment?
Alors chez nous, il y a quatre axes principaux. D'abord, l'école des métiers a depuis plus de 3 ans maintenant un parc de véhicules électriques. Donc 3 véhicules électriques plus un hybride qui servent aux formateurs et au personnel qui a besoin de se déplacer, d'aller sur les routes de Bourgogne et même au-delà. Ça, c'est le premier axe. On mène des actions de prévention de manière systématique pour sensibiliser nos jeunes au risque justement de gaspillage énergétique, puisque cet emprunt-là est abordé dans les référentiels obligatoires des CAP et des bacs pro. Donc c'est un item qui est incontournable. Le troisième axe, et pas très important, ce sont nos jeunes qui sont les vecteurs justement de ce qui va être possible de faire demain. N'oublions pas que c'est à cette jeunesse que nous transmettons tout ce qui va se passer.
Et eux qui émettent peut-être parfois des propositions aussi.
De leur absolument. Côté. Et de leur éveil dépendra notre avenir. Nous avons un troisième axe qui est la construction et rénovation de l'ancien bâtiment de restaurant et d'alimentation, qui tient compte bien évidemment des nouvelles normes, des économies d'énergie que nous allons devoir faire de manière absolument drastique sans doute, parce que nous étions au gaz en l'occurrence pour ce qu'on appelle les pianos, hein, les fourneaux. Nous sommes passés à l'électrique, à l'induction, et on sait qu'il y a une économie de 30% d'énergie à ce moment-là. Et puis le quatrième axe, c'est que nous avons essayé, du moins commencer, de privilégier pour nos salariés des mobilités douces. Alors, ça passe par plusieurs pans. Un abri pour les vélos va être construit prochainement pour les vélos du personnel. Nous avons ouvert lundi dernier une section réparateur de cycles. Vous voyez donc l'importance des mobilités vertes, hein, et des économies d'énergie à faire. Et puis, on va essayer justement de multiplier dans le parc Oscara auquel appartient l'école, ce qui est sur Longwy, des cheminements de mobilité douce pour permettre à tout le monde d'utiliser plus.
C'est pousser les gens à venir, voilà, à venir à vélo. Il y a déjà des gens qui viennent.
Oui, c'est pour ça que nous.
Vous venez à vélo à l'école ou
alors,
pas?
Alors, j'y viens en trottinette l'été.
En trottinette? Ah ouais.
L'été, oui. L'été. J'y viens en trottinette l'été. Je peux y venir à vélo. Mais c'est très agréable. Alors, l'été, hein, moi,
l'été. Ah bah oui, là, il commence à faire froid, là. Hein.
Et puis, je suis plus d'un âge à me promener comme ça, quand même, non plus.
Ah ouais. Bon. Charline Naïk, vous êtes plus vélo ou trottinette?
Alors moi, malheureusement, je suis encore à la voiture, d'autant plus que la commune où j'habite, qui auparavant, alors je suis du côté d'Aussonne.
Ah ouais, venir en trottinette de Dawson, c'est
non,
un peu.
Non, mais par contre, là, on sort un peu du débat, mais là où avant, on avait des arrêts, il y avait un arrêt TER dans la commune où je me trouve, qui a été supprimé.
Ah ouais.
Donc là, il y a aussi toute une stratégie, je pense, de.
Au niveau des transports régionaux.
Au niveau des transports régionaux.
On parle au conseil régional. Bon, c'est un autre sujet.
C'est un autre sujet, mais indirectement, je pense qu'il va falloir en débattre pour que les personnes, effectivement, qui vont travailler et qui sont pas citadins puissent trouver d'autres moyens.
Bien sûr.
La voiture,
évidemment.
Voilà,
ça peut jouer sur la décision, évidemment. Si on habite à Aussonne, on doit venir travailler à Dijon. Il n'y a pas de desserte de train.
On a quand même construit un modèle de société autour de la voiture. Hein, on va fermer la parenthèse.
Mais sinon, qu'est-ce que vous mettez en place, vous? Est-ce qu'il y a des choses?
Alors, nous, de toute façon, sur la notion de sobriété énergétique, évidemment, nous sommes concernés au premier plan avec, de par notre activité de bailleur social, puisqu'on a tout le volet de construction, hein, où l'idée est de trouver, d'innover et d'aller chercher aussi
d'isolation
des partenaires.
D'isolation des bâtiments aussi.
Voilà, pour travailler sur des bâtiments qui soient moins énergivores. On a aussi, et non des moindres, un pan important sur la notion de réhabilitation, avec, si vous avez peut-être entendu parler, des éradications, des étiquettes F et G en termes de classification énergétique des logements. Donc il est évident qu'on...
Ça va de A à G ou A, ça va, l'indice est plutôt bon, le logement est bien isolé, et après jusqu'à la G ou la
passeport
thermique.
Des dispositions sont prises pour que ces étiquettes, et en tout cas ces notations les plus mauvaises, si on peut utiliser ce terme-là, soient éradiquées. Donc ça induit forcément des travaux et des investissements pour favoriser... une meilleure isolation et donc des réductions d'utilisation d'énergie. Donc ça, c'est au niveau de notre patrimoine. Et puis alors voilà, moi en tant que DRH, je supervise également la partie des moyens généraux où se trouve l'infrastructure. Donc là aussi, on a des réflexions évidemment sur nos propres bâtiments où on essaye de se pencher sur des solutions pour améliorer les choses de manière globale, que ce soit sur le chauffage, la climatisation, voire aussi pour limiter les températures cet hiver, hein, parce que ça va être aussi le cas.
On dit qu'il faut limiter à 19 degrés la température dans les bâtiments.
C'est ça, donc je pense qu'il faut aussi être exemplaire sur ces sujets-là, donc on le sera. Et puis sur la notion de déplacement, la mise à disposition de vélos électriques sur chacun de nos sites pour le déplacement de nos agents sur le patrimoine quand c'est envisageable. Évidemment, l'utilisation du tram pour Dijon. Et puis une avancée sur la mise à disposition également de vélos. Excusez-moi, j'en ai déjà parlé, de voitures, véhicules électriques, avec l'installation de bornes dans nos parkings pour là aussi que notre flotte automobile soit avec un mix plus important en faveur de l'électrique.
Okay, donc et en faveur de DSMS.
Je vous laisserai en parler plus tard. ça, c'est la politique que vous faites pour vos salariés chez vous en interne, mais je reviens rapidement au niveau grand public, pour les bâtiments en tant que bailleur social. Le gouvernement communique beaucoup en disant voilà, il faut que tout le monde fasse des efforts, que ce soit les entreprises ou les ménages. Vous également, vous êtes en, est-ce qu'il y a ce côté pédagogique, vous le faites également avec les locataires du gros du
Aujourd'hui, gérés par Abelis. Voilà, sauf faire un appart, on n'a pas forcément encore formalisé des choses, mais évidemment c'est des axes où la sensibilisation du grand public, comme vous le disiez, et des locataires se fait aussi au travers de nos services pour les accompagner. Alors au-delà de toutes les démarches qui sont faites aussi par les fournisseurs hein, d'électricité, de gaz, qui régulièrement, voilà, tous autant qu'on est, je pense qu'on reçoit
des rappels,
des notes d'information qui vont dans ce sens-là. Mais c'est sûr que l'action individuelle permet de participer aussi aux résultats collectifs, hein, au final. Donc.
Merci beaucoup, Charline Laïc, Christine Fréclin et Bertrand Jouffreau. Merci à tous les trois. Évidemment, ce sujet de la sobriété énergétique, comme du télétravail dont on parlait un peu petit peu plus tôt, ce seront des thématiques hein, qui seront évoquées bien dans quelques jours, le 29 septembre, à la Cité de la Gastronomie de Dijon pour la rencontre des entrepreneurs de France en Côte d'Or. Merci, à bientôt.